Et comme dans Vaïakel, c'est beaucoup de répétitions, plutôt sous forme de bilan, de choses qu'on a déjà vues dans les parchiotes de Trouma, Tetzaveh, Ele Fekudei Amishkan. Mishkan Haïdout, Asher, Alpi Moshe, donc Avodat Alvim, Via d'Itamar Ben Aaron Akoen. Donc voici les contes du Mishkan. Donc ici, quand on présente, mon cher Rabbeinu va présenter les contes du Mishkan. Et la question qui se pose ici, c'est quoi? C'est une volonté de la part de mon cher Rabbeinu de transparence? Évidemment, les Chachamim se sont demandé effectivement pourquoi tout à coup Moshe Rabbeinu donne des comptes. On va dire c'est normal, c'est très bien que on donne des comptes. C'est-à-dire la transparence, c'est quelque chose de très bien. Sauf que en réalité, la raison pour laquelle les choses sont présentées en tout cas comme ça, pour laquelle Moshe Rabbeinu nous donne des comptes, c'est que les fameux Letzanei Ador, donc les moqueurs de la génération, quand ils voyaient passer Moshe Rabbeinu, ils disaient, t'as vu si comme ça, sa nuque s'est épaissie, etc. C'est-à-dire en fait, vraiment sur le mode de la plaisanterie. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils présentaient les choses comme si mon cher Rabbeinu, évidemment, avait puisé dans la caisse, en quelque sorte. Il avait pris pour lui des dons, de l'or, de l'argent qui a été donné pour la construction du Mishkan. Et ça, il le disait au fur et à mesure que pendant la construction, quand Moshe passait, il entendait cette rumeur. Et donc, il a décidé de réagir et il a décidé de présenter les comptes. Dans l'absolu, présenter les comptes, comme je disais, je pense que ça s'entend très très bien. Seulement, les présenter d'une certaine manière en réponse à ces critiques de ces Letzanei Ador, un Letz, c'est quelqu'un qui prend rien au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est même pas certain qu'il soupçonnait Moshe. Simplement, c'est une façon de qu'on prend tout à la rigolade, On a trouvé une bonne blague à raconter. C'est comme ça qu'ils ont présenté les choses. Mais d'une certaine manière, si on leur répond en présentant des comptes, c'est comme si on leur donnait de l'importance. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu les ignorer? De la même manière que Moshe Rabbeinu, quand Korach a monté toute sa cabale contre Moshe Rabbeinu, Moshe n'a pas discuté avec Korach. Il s'est adressé à Hachem, il a dit à Hachem de régler le problème. Là, d'après les Midrashim qui présentent les choses de cette manière-là, Moshe Rabbeinu aurait en quelque sorte répondu. En tout cas, les choses apparaissent comme s'il avait répondu à ces gens-là. Et ça, c'est discutable, parce que ça donne de l'importance à des gens auxquels, effectivement, il ne faut pas donner d'importance. Ce ne sont pas des gens sérieux. Et de toute manière, si cette blague-là ne marche pas, ils en sortiront une autre. Donc, on n'aura pas vraiment avancé. Donc, ça, c'est un problème sur lequel, effectivement, on peut réfléchir de plusieurs manières. Maintenant, il y a effectivement la première remarque que tout le monde fait sur ce premier verset. D'abord, le Mishkan en question, il est appelé Mishkan HaEdut. C'est donc une résidence de témoignage. De quoi faut-il témoigner, en fait? HaEdut, pourquoi HaEdut, ça? Qu'est-ce que la Haïdoute a à voir là-dedans? Rashi répond sur Mishkan Haïdoute, Haïdoute les Israël. D'abord, c'est un témoignage. Le témoignage s'adresse à Israël et le contenu du témoignage. Chez Viter, la même chose beaucoup annoncée à Hegel. Hachem, en acceptant qu'il y ait sa résidence parmi les Bnei Israël, ça veut dire qu'Hachem a pardonné la faute du Vaudor. J'arrête Ishra Shrinato Benem. Accepter de résider parmi les Bnei Israël qui lui ont fait cette infidélité majeure, ça veut dire qu'il a pardonné. Donc le Mishkan aurait donc cette fonction d'annoncer à Israël. Il y a des Midrashim qui présentent que cette annonce n'est pas seulement à Israël, est aussi le Umot HaOlam. Ok, donc les Bnei Israël, ici maintenant on apprend qu'avec ce Mishkan, on sait que Hachem a pardonné. Mais en réalité, quand Moshe Rabbeinu a négocié avec Hachem, quand Hachem avait dit qu'il allait détruire le Klal Israël et commencer un nouveau Klal avec Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a discuté avec Hachem et il a obtenu le pardon d'Hachem. Donc Hachem avait déjà pardonné avant le Mishkan. Bon, on n'a pas besoin d'attendre le Mishkan pour obtenir le pardon. Donc si le pardon a déjà été obtenu, alors pourquoi faut-il maintenant un deuxième pardon? Il y aurait un pardon en deux temps. Hachem a annoncé, je pardonne, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu l'as demandé, c'est ce qu'il a répondu à Moshe Rabbeinu. Et néanmoins, Maintenant, il faut quand même, il faut un nouveau pardon. Ça, c'est un peu compliqué. En fait, c'est marqué que il y a un lien, en fait, un lien entre le Mishkan, en fait, dans lequel on va apporter des korbanot. C'est de ce Mishkan qu'on parle, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a un inyan qui a à voir avec le fait que les korbanot sont matzil, im sov, minageinom. Le Midrash dit Atidim banecha levatel a korbanot, dit le Midrash. Donc, tes enfants, finalement, ils vont un jour supprimer les korbanot. La suppression des korbanot, elle a eu lieu par la destruction du Beth Amikdash. Ce n'est pas Banecha qui sont mevatel les korbanot. Les Bnei Israël n'ont plus été en situation de pouvoir amener des korbanot parce qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. Alors, bien entendu, on pourrait toujours dire que ce sont les Bnei Israël qui sont les responsables de la destruction du Beth Amikdash, et du coup, les korbanot ne peuvent plus être approchés. Bon, il reste à expliquer plus avant, en quelque sorte, ce lien-là. Ensuite, il y a en réalité la grande question, c'est que vous entendez bien quand vous lisez le verset Elef Kudei Amishkan, Mishkan Haedut. C'est quoi ce double Mishkan, Mishkan Haedut? Quoi deux fois Mishkan? Qu'est-ce que ce redoublement de Mishkan vient nous enseigner? Quand on a terminé donc la construction du Mishkan, les Bnei Israël ont amené un certain nombre de korbanot. On va en parler dans Parshat Shmini. À l'inauguration, ils vont apporter les korbanot. Qu'est-ce qu'ils vont amener? Pasuk dit, Vayomer, Hashem dit à Aaron, Kach lecha egel ben bakar, lechatat ve'ail leola. Donc, tu prendras un veau comme chatat, un bélier comme ola. Vel bnei Israël, tu d'abord les morts, krou seirizim lechatat, et les bnei Israël vont apporter eux de leur côté un bouc comme chatat, et un aigle, et un veau et un agneau d'un an, comme Ola, d'une part, et aussi un taureau et un bélier, comme Shlamim. Et même les korbanot que les Nessiim vont apporter à l'inauguration du Mizbeach, c'est relativement modeste si on compare à ce qui s'est passé au moment où Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash. Ou alors, là-bas, à ce moment-là, c'était un très très grand nombre de korbanot. Le texte dit qu'il y avait Esri Mushnaï Melef, donc 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 de petits bétail. C'est sans commune mesure. Il y a aussi une autre différence entre l'inauguration du Mishkan, enfin la fin de la construction du Mishkan et la fin de la construction du Beth Amikdash, c'est que là, à la fin de la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu va prier une prière relativement courte. C'est le fameux « Vi'inoam Hashem Elokeinu Aleinu » ou « Ma'asei Yadeinu Konenu Aleinu » Ma'asei Yadeinu Konenu. Et il dit aussi « Yehi Ratzon Shetishrei Shechina B'Ma'asei Yadechem » Que ce soit la volonté d'Hachem que la présence divine réside dans l'œuvre de vos mains. Alors que à la fin de la construction du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il a fait une longue prière, Yehi Hashem Elokeinu Imanu, etc., La Tot Levaveinu Elav, Alechet Bechol Drachav, Lishmor Mitzvotav, Chukotav, Chukav, pardon, Mishpatav, Asher Siva Et Avotenu, etc., Vaya Levavam Shalem Im Hashem Elokeinu. Pourquoi cette différence entre le traitement du Mishkan et le traitement du Bet HaMikdash? Chazal disent sur ce redoublement de Mishkan, deux fois ici, ils disent qu'il y a un remez aux deux destructions du Bet HaMikdash. En fait, pourquoi c'est Mishkan? Parce qu'on considère que la destruction du Beth Amikdash, ça n'est pas la disparition complète du Mishkan, du Beth Amikdash. C'est chez Nitmashken Pahamai. Le Beth Amikdash a été pris en gage, en quelque sorte, par Hachem. Et en gage, ça veut dire qu'il a bien sûr été détruit, mais c'est la coquille qui a été détruite. Mais l'idée de Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu le garde en gage, on verra. Mais on peut aussi le dire d'une autre manière. Rav David Hofstetter qui l'explique d'une autre manière. Il dit, la Torah, elle veut nous dire ici que le Mishkan avait une double fonction. Bien sûr, dans le Mishkan, on allait amener des korbanot, c'est-à-dire, c'est effectivement le lieu, c'est une résidence pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Il implique que les Mefarshim disent que le Mishkan a Edout. C'est le Makom à Mishkan le Luchot a Edout. Vous vous souvenez, on avait déjà vu que les Luchot sont appelés Luchot ha Edout. Les Luchot de témoignage. Les Luchot sur lesquels il y avait la trace, enfin, il y avait les Aseret HaDibrot, les 10 paroles d'Hachem sont écrites sur les Luchot. c'est marqué Ma Edut Zutora. Ok, ça c'est une première chose. Une première fonction du Mishkan. Et en plus de ça, hein, la transmission de la Torah au Bnei Israël, elle se fait dans le Mishkan. Chazal disent que Kol mitzvot haTorah nitztavu leIsrael miMishkan. Me'al Aaron ha'Edut, comme on sait très bien que la parole divine, elle venait d'entre les Kruvim qui étaient sur le, enfin qui était le couvercle du Aaron ha'Edut, de la boîte dans laquelle il y avait les Luchot, qui s'appelle aussi Aaron ha'Edut. C'est marqué au bevor Moshe Elohel Moed le Daberito, Vaishma et Akol mit Daber Elav, et Kol mitzvot à Torah, Shama Moshe mi Mishkan. Il a entendu au Mishkan. Et ensuite, il les a ordonnés au Bnei Israël. Donc, c'est ça le redoublement du Mishkan, Mishkan Haedut. Il vient dire que le Mishkan avait donc deux fonctions. Écouter un Mishkan, c'est les mitzvot, qui correspond aux mitzvot du Mishkan, c'est-à-dire akravat korbanot, approcher les korbanot, et Mishkan Haedut, parce que le Mishkan est le lieu de résidence de la Torah, qui est le témoignage, en quelque sorte, de tout ce qu'il écrit, donc le témoignage de tout ce que Hachem a fait pour le clan d'Israël, tout ce que le clan d'Israël a reçu d'Hachem. On comprend peut-être pour ça, comme cela, pardon, pourquoi les korbanot qui ont été approchés à cette occasion, les Bnei Israël ont donc approché, on a vu un nombre restreint de korbanot, parce que la fonction du Beit HaMikdash était uniquement d'approcher les korbanot. Dans le Beit HaMikdash. Donc, au moment de son inauguration, on a montré avec beaucoup d'ampleur, en quelque sorte, la fonction de ce Beit HaMikdash, Korbanot. Par contre, dans le Mishkan, la fonction Korbanot n'était peut-être même pas l'essentiel. En tout cas, elle n'était pas la seule. C'était la fonction du Mishkan, c'est le lieu d'où émane la Torah. Et donc, on n'allait pas mettre l'accent sur les korbanot, parce que ce n'est qu'une des fonctions du Mishkan. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la prière de Shlomo HaMelech est beaucoup plus longue que la prière de Moshe Rabbeinu? Il y a vraiment justement une différence entre l'étude de la Torah et l'approche des korbanot en ce qui concerne l'impact de ces deux choses sur l'homme. Le limud haTorah s'adresse a priori au sechel de l'homme, s'adresse à l'intellect, parce que l'étude de la Torah, ça se fait avec amal, yegiya, avec des efforts de compréhension, etc. Et grâce à ces efforts-là, le cerveau de l'homme est travaillé, il est purifié. Alors que d'un autre côté, le travail des corbanotes, ça a un impact sur la volonté, sur les désirs de l'homme, de telle sorte que sa volonté, ses désirs soient dirigés au service, soient mis au service d'Hachem. On verra dans la parasha de la semaine prochaine, Rashi, effectivement, il va expliquer longuement le rôle des korbanot dans ce domaine-là. Donc, puisque dans le Mishkan, l'effet était par le biais de l'étude de la Torah, et qu'il y avait aussi des korbanot, donc il y avait les deux choses dans le Mishkan. Alors on n'a pas besoin d'une prière spécifique sur le fait que le peuple doit faire très attention de bien servir Hachem de tout son cœur, etc. Parce que, en fait, il y a l'étude de la Torah qui va l'y aider, qui va l'y inciter. Par contre, au moment de l'inauguration du Beit HaMikdash, l'essentiel, c'est l'impact que ça a à travers le travail des korbanot. Mais évidemment que c'est là-bas, il n'y a pas de source de la Torah en réalité. Donc Shlomo HaMelech a dû prier pour que le peuple, effectivement, veuille vraiment, de fond de cœur, servir Hachem. Parce qu'il n'y a pas de travail sur l'intellect. Donc c'est ça peut-être le pshat du Midrash. Atidim banecha levatel akorbanot. Tes enfants vont supprimer les korbanot. C'est pas que les Bnei Israël vont supprimer les korbanot. C'est pas que concrètement on va plus les amener, on va plus approcher de korbanot. Mais étant donné que les Bnei Israël ont approché les korbanot, il faut vous rappeler que jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction des Beit HaMikdash, au Beit HaMikdash, les choses se passaient normalement. Les Neviim, les prophètes, ne font pas de reproches aux Bnei Israël parce qu'ils ne font pas la Avoda au Beit HaMikdash de la bonne manière. C'est simplement que c'était devenu purement formel, qu'il n'y avait pas de kavanot. C'était quelque chose, une institution, il faut amener les korbanot, on amène les korbanot. Mais il n'y avait pas d'intention. Il n'y avait pas de volonté de s'approcher soi-même par ce biais-là d'Hachem. Or, c'était bien... Les korbanot, c'est la shon akrava, ça veut dire, il ne s'agit pas d'approcher les animaux, il s'agit de s'approcher soi-même. Donc c'est ça qu'on a dit dans le Midrash, ils vont être mevatel les korbanot, c'est-à-dire, ils amènent, ils tuent des bêtes, on les brûle sur le Mizbeach, à un endroit bien précis et tout, mais ce ne sont pas des korbanot. Ça n'a aucune fonction de rapprochement d'Hachem. Dans le limud de la Torah, on a quelque chose d'analogue. Dans le Yalkut Shimoni sur Teilim, Donc le Midrash dit, Atida Torah li batel, Bet Amigdash li charev. La Torah, elle va être annulée en fait. Les gens vont plus s'en occuper. Et le Bet Amigdash va être détruit. Et l'explication de ce Midrash là, c'est bien que avant que le Bet Amigdash soit détruit, les Bnei Israël s'occupaient de Torah. Néanmoins, ils ne s'en sont pas occupés de telle sorte que ça puisse les transformer. Donc, si vous voulez, la Torah, elle peut nous transformer si on veut bien être transformé. Si on l'étudie dans le sens, avec la volonté d'être transformé par la Torah. Mais si on étudie la Torah aussi simplement parce que c'est intéressant ou comme un jeu ou comme une occupation intellectuelle, sans que cette étude soit faite en vue d'une transformation de la personne, alors il n'y aura aucun impact. C'est ça que Chazal dit, « Al ozvam et torati », ils ont abandonné ma Torah. Et Chazal explique que, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah? C'est qu'ils ne faisaient pas de bracha avant l'étude de la Torah. Le Ran explique au nom de Rabbeinu Yona que ça voulait dire que la Torah n'était pas très importante à leurs yeux. Ça valait pas la peine de faire une bracha avant d'étudier. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient pas de Torah pour la Torah. Donc, ils étaient mezalzel, ils négligeaient complètement la bracha, parce que la bracha, on ne la fait que si on comprend que la Torah, c'est quelque chose de très important. Donc, on comprend pourquoi, effectivement, Akadosh Baruch Hu a dit, quand on a terminé le Mishkan, que par le zchout de la Torah et des korbanot, les Bnei Israël vont échapper au Géinom. Parce que les deux ensemble, la Torah et les korbanot, sont les deux fonctions essentielles du Mishkan. C'est pour ça qu'il a été construit. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça nous dit à nous, puisque nous on n'a plus ni de Mishkan ni de Bet Hamikdash d'ailleurs. C'est-à-dire que il nous manque le travail des korbanot. Et donc il ne reste que pour Hachem, il ne lui reste que les fameux Arba Amot Shel Halacha, les quatre coudées de la Halacha. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la façon de s'approcher d'Hachem, c'est bien entendu par l'étude de la Torah, de la bonne manière, avec la kavana de nous approcher d'Hachem. C'est cette fonction-là qui reste, d'une certaine manière, à assumer avec la seule étude de la Torah, puisqu'on n'a plus les aides que nous apportait le Mishkan, respectivement le Bet Hamikdash. Mais ça reste. L'étude de la Torah, elle reste toujours possible. Elle doit être faite dans la bonne manière. Remplacer aussi les korbanot, si on veut. Il y a un midrash, toujours sur cette première phrase. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Vasu li migdash feshachanti betocham. Ça, c'est ce que Hachem a dit dans Parshat Truma. Donc, qu'il me fasse un migdash, c'est-à-dire un sanctuaire. Veshachanti, et je résiderai, Lashon Mishkan, Betocham parmi eux. Alors le Midrash dit, je vous ai dit, que tous les peuples sachent, Shenitkaper Lahem, c'est à Egel. On a vu qu'il y a un Midrash qui dit que c'est pour Israël, que Israël sache qu'Hachem a pardonné. Ce Midrash-là, c'est un Tanhuma, lui dit que tous les peuples sachent qu'Hachem a pardonné la faute du Egel. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mishkan Haedut. Mishkan de témoignage, Shu Edut le Chol Ba'e Olam, Shakadosh Baruch Hu Shochen B'Migdashchem. Tout le monde sache que Hachem réside dans votre Migdash. Donc on a déjà parlé un petit peu du fait que la Torah a dit deux fois de suite Mishkan, Mishkan Haedut, Elef Kudeh Mishkan, Mishkan Haedut. On peut dire les choses de la manière suivante. Ce Midrash-là, qu'on a cité de le Tanhuma, là, Asuli Migdash, Veshachanti Betocham, afin que tous les peuples sachent, elle explique que le Kach Nikra Mishkan Haedut. C'est-à-dire que l'érection du Mishkan est un témoignage de ce qu'Hachem a pardonné. Alors, on a vu que Hachem, en fait, avait déjà pardonné Vesalarti Kidvarecha. Dans ce cas-là, on demande, mais pourquoi est-ce que on a besoin de l'accapara du Mishkan. Pourquoi est-ce qu'il faut une super kapara alors qu'on a déjà eu une kapara? Hachem a dit, j'ai pardonné. Et il l'a dit à Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu a discuté avec lui et il a obtenu qu'Hachem ne détruise pas le clan Israël. Alors, est-ce que la parole d'Hachem, Salachti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé, c'est pas suffisant? Mais maintenant, supposons maintenant donc qu'on sache pourquoi, ça on ne sait toujours pas, mais que, ok, il faut une deuxième kapara. On comprend, le Mishkan, c'est une deuxième kapara. Mais comment ça parle? C'est marqué pour que tout le monde le sache. En quoi est-ce que l'érection du Mishkan est un témoignage pour que tout le monde comprenne qu'Hachem a pardonné? Alors, il a répondu, il a dit, parce que la preuve, c'est que je réside parmi vous. Donc, peut-être qu'il faut essayer de comprendre la chose suivante. Les Bnei Israël ont fait tshuva. De façon générale, quand on fait tshuva sur une faute, alors la tshuva, elle fait en sorte que on ne soit pas sanctionné pour la faute qu'on a faite. Je fais tshuva, je ne serai pas sanctionné pour la faute. La faute est effacée en tant que faute. Néanmoins, ça ne permet pas d'être purifié, d'être re-sanctifié, repurifié de la touma, de la faute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme quand, disons que votre meilleur ami vous a trahi. Et ensuite, bon, elle s'est excusée, vous avez décidé de lui pardonner. Alors, vous lui pardonnez. Mais est-ce que immédiatement vous vous retrouvez dans le même état de proximité avec... Est-ce que ça redevient immédiatement votre meilleur ami? Le pardon, ok, je t'en veux plus. Je ne t'en veux plus, je te tiens. Ok. Mais il faut reconstruire la relation. Quelque chose dans la relation s'est cassé, indépendamment de la faute en quelque sorte. Donc ça s'appelle, par rapport à la faute, ça s'appelle, c'est une forme de touma de la faute, une forme de manque de kedusha. Il y a plus, pendant la faute, elle a fait que la kedusha de la personne, la tahara de cette personne s'en est allée. Il faut que ça revienne. Et la tshuva, elle n'assure pas ce retour-là. Pour sortir de la touma en question, il va falloir faire un changement radical. Les choses ont été dégradées. On a perdu une certaine... Par exemple, si on considère que que l'être humain, il est naturellement proche d'Hachem, s'il ne s'éloigne pas. Donc, ça veut dire que ce qu'il fait est reçu comme quelque chose qui vient d'un proche. Donc, c'est bien reçu, si vous voulez. Mais cette a priori de bonne réception, ben, il n'existe plus après la faute. Alors, Hachem, effectivement, ne va pas te tenir rigueur. Mais il faut reconstruire la relation. C'est-à-dire, il faut que la personne qui est devenue une personne impure, disons, on va utiliser ces mots-là, mais impure, sans que doucha, etc., il faut qu'elle redevienne une personne avec pureté et que doucha. C'est-à-dire, il faut qu'elle change quasiment de personnalité. Elle retrouve la personnalité qu'elle avait avant la faute. Dans le Midrash, c'est Midrash Rabba sur Vaikra, Pasuk, Tirtov le Zot, le Dor Acharon, écrit ça pour la dernière génération. Il y a une drasha, Mikan, chez Akadosh Bukhu, Mekabel Ashavim. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte les gens qui font tshuva. Ve'am nivra yalelka. Et le peuple créé dira la louange d'Hachem. Sh'Akadosh Baruch Hu boré otam bria chadasha. Donc, sache que Hachem nous recrée sous forme d'une nouvelle créature. Nouvelle créature avec le Tahara et avec Kedusha. Donc, après la faute du Vaudor, qui était la première faute que le peuple a fait en tant que peuple, pardon. Donc, c'est une faute nationale, si on peut parler comme ça. Donc, d'une certaine façon, c'est ça qu'Hachem avait dit à Moshe. Je vais terminer avec ce peuple. Je vais commencer un nouveau peuple. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, pardonne-leur. Alors, pardonne-leur. Et à ce moment-là, vous vous souvenez, Hachem a dit à Moshe, je vais envoyer un malach pour vous guider. C'est-à-dire, je vous pardonne, mais vous allez devenir un peuple comme les autres. Un peuple qui a une culture, etc. C'est ça le malach. Là, du coup, mon cher Rabbeinu a dit, mais si c'est pour ça, je ne suis pas d'accord. Je ne marche pas. Je veux que nous retrouvions la ligne directe, en quelque sorte, avec Hachem. Je ne veux pas que le clan Israël devienne un peuple comme les autres. Je veux que le clan Israël redevienne ton peuple. Mais en vérité, c'est bien plus que ça, parce que vous vous souvenez, quand Abraham Avinu a accepté en quelque sorte de faire ce qui normalement aurait dû être fait par l'humanité tout entière. Mais à la tour de Babel, cette fameuse humanité tout entière, elle s'est disqualifiée. Et là aussi, Hachem voulait arrêter tout le système. On recommence tout. Et Abraham a dit non, mais on peut faire autrement. Moi, mon peuple, nous allons faire le travail qui normalement devrait être fait par l'humanité tout entière. Et quand nous aurons fait le travail, nous serons arrivés, alors on dira « l'humanité est arrivée ». Et Hachem a accepté. Par conséquent, si le clan Israël se disqualifie, on se retrouve dans la situation où le monde n'a plus de raison d'exister. Puisqu'Abraham, il a sauvé le monde de ce point de vue-là. Hachem a construit un nouveau monde dans lequel, au lieu que ce soit l'humanité tout entière qui doive arriver au but, il suffit que les Bnei Israël arrivent au but, on dira que ça suffit pour qu'on considère que l'humanité a réussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand les Bnei Israël avec le veau d'or se disqualifient, le peuple n'est plus le peuple d'Hachem, et du coup, le monde est aussi complètement chamboulé, il n'a plus de raison d'être. Chazal vont plus loin, ils disent même, c'est rapporté dans le Mishnah de Charim, que quand une personne faute, d'une certaine manière, elle abîme le monde entier. Alors quand il y a tout un peuple, et le peuple juif en fait, qui faute, il abîme le monde entier. Alors, c'est ça que la construction du Mishkan va faire ce travail-là. Donc, après la faute du veau d'or, on est dans une situation où, d'une certaine manière, il n'y a plus de peuple d'Hachem, et donc le monde n'a plus de raison d'être. Donc, il faut rien moins qu'une espèce de création du monde, un nouveau monde. Il faut un nouveau monde et un nouveau clan Israël. Vous comprenez bien, Hachem avait décidé de faire ça avec un nouveau peuple qui serait le peuple de Moshe, le peuple issu de Moshe. Moshe n'a pas été d'accord. Il a obtenu que Hachem donne d'après ce que le Gaon explique, ce que je vous ai déjà rapporté plusieurs fois, il a obtenu un sursis. C'est-à-dire, voilà, Hachem a pardonné, et il va remettre les Bnei Israël dans la position qui était la leur, donc le monde dans la position qui était la sienne. C'est-à-dire, il faut, mais comment? Il faut recréer le monde, recréer le clan d'Israël. Donc, comment est-ce que ça se fait? Ça, on sait. On ne sait pas comment ça marche pour l'instant, mais on sait ce qui est dit à ce sujet. C'est la fonction du Mishkan. Le Mishkan, comme deuxième kapara, après qu'Hachem est déjà pardonné, donc une deuxième kapara, c'est le Mishkan. Alors, il faut maintenant expliquer comment, en construisant le Mishkan, on reconstruit le monde et on reconstruit le clan d'Israël, en quelque sorte. Pour ça, on le connaît parce que enfin, c'est de nouveau répété dans la parasha de cette semaine, et on l'avait déjà vu. L'artisan de la construction du Mishkan, celui qui est en charge de la construction du Mishkan, c'est Bezalel. Alors, c'est quelque chose de tout à fait incompréhensible. Je vous rappelle que Bezalel, il est tout juste bar mitzvah. Et c'est lui. C'est lui qu'Hachem va charger de toute la chokhma, de tout le savoir-faire, de toutes les capacités artisanales, etc., qui sont nécessaires pour la construction du Mishkan. Ça se dit de la manière suivante que Hachem a donné à Bezalel cette possibilité. Hazal dit, Yada Bezalel, vous connaissez ça, Yada Bezalel et Tsaref Otiyot Shebaem Nivra Olam. Hazal qui dit, le monde a été créé avec des lettres. Lettres de l'alphabet hébreu, sont les briques, si vous voulez, du monde. Comment? Eh bien, il y a des assemblages de lettres qui forment donc des mots, des phrases, etc. Et ce sont ces assemblages-là qui sont les mots créateurs. D'accord? Quand ces mots-là sont prononcés par Hachem, ces mots-là c'est par ce biais-là que le monde a été créé. Ce que Bezalel a fait quand il a construit le Mishkan, c'est pas simplement qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire, mais il savait que il fallait remettre, puisqu'il s'agit de reconstruire le monde, donc il fallait refaire ces combinaisons de lettres. Seulement, il devait les faire à travers les matériaux qui ont été donnés. Il faut faire ces combinaisons de lettres avec de l'or, avec de l'argent, avec du cuivre, avec des bois, avec des tissus, avec des broderies, etc., avec des pierres, etc. D'accord, ça veut dire que c'est une réalisation de ces lettres, comme elles se sont réalisées dans la création concrète du monde, au moment de Briyat HaOlam. Hachem, Bezalel connaissait ça, et c'est Hachem qui lui a mis ça. C'est ça qui lui a donné, en fait, cette possibilité de savoir. C'est comme ça que c'est devenu le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est devenu le monde en petit. Donc, il y a eu création du monde. La construction du Mishkan, c'est la recréation du monde, de ce monde dont on avait besoin, parce qu'il a été détruit par la faute du Vaudor. Il a été détruit, la preuve, c'est que Hachem dit, ben, je continue pas. Alors, la façon qu'Hachem a, le fameux sursis, c'est de permettre à Bezalel de reconstruire le monde. Donc, il a construit un mini-monde. C'est toujours comme ça. Nous, on fait que des toutes petites choses. Mais étant donné que c'est Hachem qui nous a ordonné de les faire, elles ont un impact concret. Un tel impact que ça crée le monde, en réalité. On a recréé le monde. Donc, Bezalel n'était pas qu'un super artisans, etc. C'est marqué dans le pasouk, Hachem a dit, effectivement, dans la paracha de la fin de Shemot, justement, Akosh Bokhu a dit, il va y maler auto. Ruach Elokim, Bechokhma, Bitvuna, Bedat. Hachem lui a tout donné. Chokhma, Bina, Dat. Donc, c'est ça que ça veut dire, que il a créé il a mis en place le monde, en quelque sorte, le monde. Mais Hachem lui a quand même pas donné des pouvoirs divins, c'est-à-dire que quand il a fallu ériger le Mishkan, on a construit les éléments, ils sont là, mais il faut le monter. Alors, c'est Hachem qui l'a monté. Personne ne pouvait faire tenir le Mishkan. Moshe Rabbeinu pouvait le monter, mais il retombait. Le monter définitivement, enfin définitivement, on allait ensuite le détruire et le reconstruire. Mais disons, le monter pour une première fois, ça s'est fait par Hachem. Parce qu'il n'y a que Hachem qui pouvait le faire, évidemment. C'est Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui avait dit, alors les Bnei Israël, ils avaient essayé, ils n'y arrivaient pas, ils sont allés chez Moshe, Moshe, il a dit à Hachem, « Ribon Moshe l'Olam, meni yodea la amido. » Je ne sais pas comment le mettre debout. Alors Hachem lui a dit, « Asok biyadecha vata more la amido ve'u omed me'elav. » Toi, tu fais ce qu'il faut faire théoriquement pour le lever. Ensuite, il tiendra tout seul. Ça veut dire, moi, je le ferai tenir. Et c'est pour ça que le pasouk dit, Hukam Hamishkan. Il sait lever tout seul, le Mishkan. Hukam. Parce qu'évidemment, la construction du Mishkan, c'était pas une construction purement matérielle, bien entendu. C'est une construction quasiment divine. Il s'agissait de reconstruire le ciel et la terre, etc. Pour ça, il n'y a qu'Hachem qui puisse le faire. Donc Hachem a donné l'inspiration nécessaire à Bezalel pour assembler les choses, faire les choses, mais ensuite pour le monter réellement, c'est Hachem lui-même qui a dû le faire. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il s'agit d'une Briat HaOlam. Il s'agit d'une création du monde. C'est-à-dire, mettre en place le Mishkan, c'était recréer le monde. Or, le monde, il a été créé pour que dans ce monde, Hachem soit reconnu comme tel, comme reconnu comme le roi. Qui est Ashrat, Ashrina, présence d'Hachem dans le monde, reconnu, effectivement. Et donc, comme ça se passe dans le monde, il faut un lieu. D'accord ? Pour que les choses aient lieu, il faut un lieu. Donc, ces lieux, ça sera le Mishkan, puis le Bet Hamikdash. Donc, quand on a construit, on a fabriqué le Mishkan, le monde a retrouvé sa situation initiale, celle dans laquelle il était avant la faute de Vaudor. On se retrouvera la même chose au moment de la construction du Beit HaMikdash. Voilà. Donc maintenant, on comprend un peu mieux le fameux Midrash qui dit que justement cet Akamat HaMishkan, c'est une édoute qu'Hachem a pardonné à l'Israël, cette faute du Vaudor. Puisqu'avec le Mishkan, on a réparé, en fait, ce qui avait été cassé complètement par le Vaudor. Donc le redoublement là, Mishkan, Mishkan Haedut, ça vient nous rappeler la dimension supplémentaire de, oh, c'est pas simplement le lieu où on va apporter les korbanot ou d'où la Torah va arriver chez Abraham, chez Moshe Rabbeinu, c'est que ici, Maaseh HaMishkan, c'était vraiment une création du monde, en fait. Donc, le Mishkan sert vraiment de Edout. Alors, en passant, on peut revoir une chose dont on avait déjà un peu parlé. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait toutes sortes de travaux. Il y avait des tisserands, il y avait des brodeuses, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des orfèvres, il y avait des gens qui travaillaient le cuivre, des gens qui travaillaient le bois, etc. Toutes sortes de travaux. Il fallait écrire aussi parce qu'il fallait marquer les poteaux et les planches pour savoir comment on les assemble à chaque fois. Et les Chachamim ont extrait en quelque sorte des travaux du Mishkan 39 travaux fondamentaux. 39 travaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan. Et ces 39 travaux sont les 39 travaux interdits le Shabbat. Donc, le lien entre les deux, il est assez clair. Parce que le Shabbat, quand on pratique le Shabbat, on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il a fait Shabbat. C'est à ce titre-là que nous faisons Shabbat. Eshet yamim asa Hashem et ha-shamayim et ha-aretz. Et dans la construction du Mishkan, avait d'une certaine manière, comme on vient d'expliquer, une espèce de création du monde. Les 39 travaux qui étaient les travaux de création du monde, ce sont ces travaux-là qui, le Shabbat, sont interdits. Et on l'entend effectivement dans le texte, parce que le texte dit « Sheshet yamim ye'ase melacha » ou bien « te'ase melacha » c'est pas seulement « tu feras » ou « tu feras pas » mais « sera fait » un travail sera fait. On a l'impression que le travail se fait tout seul, oui. Sera fait, se fera. Mais ça se fait pas tout seul. Pourquoi la Torah, elle dit, t'es assez, malacha, Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas Ta'aseh Melacha? Ou par semaine, voici les 6 jours de la semaine, Ta'aseh Melacha. Pourquoi Ta'aseh Melacha? Ta'aseh Melacha. Tu feras. Dans les Aseret Hadibot, c'est marqué Ta'avod Ve'asita. Pourquoi ici, quand la Torah répète le Shabbat juste avant l'histoire du Mishkan, pourquoi elle nous dit Ta'aseh Melacha? Après ce qu'on vient de voir, on entend bien, parce que le pasouk parle de la Melacha du Mishkan. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette fameuse référence à la Melacha du Mishkan, qui elle aussi, dans la Melacha du Mishkan, c'était Ta'aseh. Ou kam a Mishkan, le Mishkan se lève tout seul. Les Melachot se faisaient toutes seules. Alors qu'en réalité, comme explique le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient spécialistes en fabrique, dans la fabrique des briques. Tout à coup, ils sont devenus des artisans de génie sur toutes sortes dans toutes sortes de domaines. Comment c'est possible? Ils ont fait les gestes qu'on leur a prescrit de faire. Et ça s'est fait tout seul, bien sûr. C'est assez malacha. Ça veut dire que la création du monde, bien sûr, elle ne s'est pas faite par les hommes. C'est Hachem qui a fait la création, qui a créé le monde. Donc le Mishkan aussi, c'est Hachem qui l'a fabriqué. Seulement, il nous a donné la possibilité, l'ordre de participer. Mais on a fait des choses qu'on ne savait pas faire. De la même manière que avec les mitzvot, on fait des choses qu'autrement on ne saurait pas faire, bien entendu. Jusqu'où un loulav, d'accord? Et tout à coup, avec ça, j'ai choisi les bonnes pluies et éliminé les mauvaises, choisi les bons vents et éliminé les mauvais vents, quoi. Essayez de prendre au jour. Si vous prenez un bouquet comme ça, vous pouvez toujours le secouer tout combien vous voulez. Il y a peu de chances que ça marche. Ça ne marche que parce que c'est un ordre d'Hachem et que parce que c'est une mitzvah. Alors Hachem nous dit, fais ce geste-là et il y aura un impact que tu ne peux pas mettre toi-même. C'est moi qui le mettrai, cet impact. Mais c'est toi qui fais les gestes. C'est la même chose que ce que Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu. Quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il devait construire le Mishkan, alors Moshe Rabbeinu a dit, Hashamayim, Mushmei Hashamayim, lo yichal klucha. C'est les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir et toi tu veux que je fasse une résidence pour toi, ça n'a pas de sens. Hachem lui a dit, tu fais tes petits trucs à toi et moi je me débrouille déjà pour habiter là-bas, pour résider là-bas. Donc, ça veut dire, nous faisons des choses et les gestes que nous faisons ont un impact tel qui nous dépasse, c'est un impact que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Nous n'avons pas cette possibilité, on n'a pas cette force, cette puissance. Et par le biais des mitzvot, parce que c'est une mitzvah, ce que je fais c'est une mitzvah, alors j'agis divinement puisque j'agis sur l'ordre d'Hachem. C'est ce qui se passe pour Shabbat, c'est ce qui s'est passé pour le Mishkan. Mon cher Rabbeinu, comme vous savez, à un moment donné, il porte un masque. Et pourquoi est-ce qu'il porte un masque? parce que kikaran or panav, c'est-à-dire la peau du visage de Moshe rayonnait. La question qui se pose, que pose le Midrash, Hazal demande d'où vient ce rayonnement du visage de Moshe. Et le Midrash dit, le rayonnement du visage de Moshe, il vient d'une goutte restante d'encre dans la plume de Moshe. Il y a une goutte qui tombait, c'est ça le rayonnement du visage de Moshe. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il est clair que ce midrash, il demande à être expliqué. D'abord, premièrement, parce que qui parle d'encre là-dedans? Moshe, il n'a rien écrit. C'est Hachem qui a écrit sur les louchot. Hachem a gravé, il n'y a pas d'encre. Et puis, même cette idée qu'il y avait trop d'encre, alors tout n'a pas été utilisé, ça veut dire quoi? Le Beta Lévi, il explique la chose de la manière suivante. Enfin, c'est une grande explication. Je vais essayer de le faire, de vous le dire rapidement. La différence qu'il y a entre, enfin, cette histoire du visage de Moshe Rabbeinu qui est rayonnant, il rayonne seulement après les deuxièmes tables. Pourquoi quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les premières tables, pourquoi il ne rayonne pas? Il y a un statut différent entre les premières et les deuxièmes tables. Vous savez probablement que dans les premières tables, tout était écrit. C'est-à-dire ce que nous on appelle Torah Shebaal Peh, la Torah orale, elle était aussi gravée sur les louchot. Est-ce que c'est simplement dans l'épaisseur du reste qu'il y avait toute la Torah orale? Bon, exactement comme on raconte qu'à la fin de sa vie, le Gaon de Vilna, il étudiait dans un rouleau de la Torah. Parce que il regardait les mots de la Torah, etc. Et il y avait toute l'épaisseur de toute la Torah orale qu'il connaissait. Il avait qu'à regarder les mots et en même temps, il pouvait étudier. Il n'avait pas besoin de prendre d'autres livres, etc. Donc, on pourrait penser que dans la gravure des Aseret HaDibrot qui valent toute la Torah, il y a aussi toute la Torah. Il y avait dans les premières louchot toute la Torah orale aussi. Ça, c'est dans les premières louchot. Dans les deuxièmes louchot, c'était gravé de la même manière, mais il n'y avait pas la Torah Shebaal Peh. Vous voulez? Ce dont on parle quand on dit qu'il y avait de l'encre, cette idée de l'encre qu'il y avait en plus, c'est l'encre qui n'a pas été utilisée dans les deuxièmes louchot. Parce que dans les deuxièmes louchot, on n'a pas écrit, Hachem n'a pas écrit la Torah chez Baal Peh. Hachem, dans les deuxièmes louchot, il nous a dit que c'était à nous à fabriquer la Torah Shebaal Peh. Et donc, l'idée, c'est que le rayonnement de Moshe Rabbeinu, le visage de Moshe Rabbeinu, ce rayonnement-là, c'est la Torah Shebaal Peh. C'est la Torah orale qui rayonne. C'est-à-dire, parce que les hommes sont devenus producteurs de la Torah. Particulièrement Moshe Rabbeinu. Il produit la Torah. Et c'est comme ça que ça rayonne, si vous voulez. Donc, c'est du fait que dans les premières louchot, il n'y avait pas de Torah orale, elle était écrite. Alors, du coup, l'homme n'est que lecteur, si on peut parler comme ça, des louchot. Il ne produit pas la Torah. On n'aurait pas produit la Torah si on avait vécu sur les premières louchot. On n'a pas vécu sur les premières louchot. Mais dans les deuxièmes louchot, il n'y a pas gravé dans les louchot la Torah orale. Et l'idée de, il reste de l'encre dans la plume de Moshe, c'est-à-dire, c'est l'encre qu'on n'y a pas été utilisée pour écrire la Torah chez Balpé. C'est ça l'idée. Bien sûr, il y a pas d'encre, il n'y a pas de, etc. Mais c'est ça l'idée. C'est cette Torah chez Balpé qui fait en sorte que Moshe Rabbeinu, qui est dépositaire à ce moment-là, il a les louchot, il est dépositaire, toute la Torah qui a été, toute la Torah orale qui a été produite jusqu'à maintenant et qui sera produite jusqu'au temps du Mashiach, toute cette Torah orale, elle a été montrée à Moshe Rabbeinu. Mais montrée peut-être à cause de l'histoire de Rabbi Akiva. Vous vous souvenez que quand il est à l'école de Rabbi Akiva, il comprend rien, Moshe Rabbeinu, jusqu'au moment où Rabbi Akiva dit que c'est une halakha le Moshe Missinaï. Alors du coup, il tient les deux bouts de la ficelle. Quoi. Il entend ce que Rabbi Akiva en a fait. On lui dit que c'est une halakha le Moshe Missinaï, donc il arrive à comprendre de quoi on parle. Mais ça veut dire que il a reçu, lui, au Sinaï, ce que Rabbi Akiva a dit. Mais il l'a reçu de façon compacte, si vous voulez, prenez un éventail, et quand il est fermé, ben, tout l'éventail est là, mais vous voyez pas le détail. Donc il a reçu la Torah orale sous forme d'éventail fermé. Et Rabbi Akiva, tous les familles, au fur et à mesure des générations, ils ont ouvert l'éventail. Et on continue tous les jours à ouvrir l'éventail en question. Donc, on trouve rien d'autre que ce qui a été montré à Moshe Rabbeinu. Seulement, Moshe Rabbeinu, il ne l'a peut-être pas vu de cette manière-là. Il a peut-être vu seulement comme on voit sur la tranche d'un éventail fermé, on voit certaines couleurs, mais évidemment pas les motifs, a priori. Mais dans l'éventail fermé, il est susceptible de s'ouvrir. Il faut imaginer que c'est un éventail qui peut s'ouvrir de toutes sortes de manières, et plutôt presque comme un kaléidoscope, quoi, si vous voulez. On est bien plus riche. D'accord? On peut ouvrir ça de toutes sortes de manières. Il y a beaucoup de manières de lire, et ces différentes manières de lire sont ces fameuses manières de lire dont il est dit que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, que les uns comme les autres sont des paroles, les unes comme les autres sont des paroles du Dieu vivant. Non, c'est pas que quand il y a une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est pas qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Ils ont raison tous les deux. Simplement, c'est deux façons différentes de voir les choses qui toutes les deux ont droit de citer dans la Torah. D'accord, la Torah n'est pas, il n'y a pas qu'une seule voie. Pour la halakha, on a tranché. Mais avant, si c'est pas une question d'halakha, au niveau de la pensée, il peut y avoir une multitude, il n'y a pas que deux, il peut y en avoir bien plus que deux, possibilité de lire les choses de plusieurs manières. Et ça ne veut pas dire que n'importe quelle lecture est acceptable. Il y a des lectures qui ne sont pas acceptables, ça s'appelle Megale Panim Ba'alacha Panim Ba'Torah Sheloka Alacha. On peut aussi dire des âneries, des choses à la fois idiotes ou bien hérétiques ou ce genre de choses. Bon, tout. Mais même dans l'éventail, justement, de toutes les possibilités, il y a une multitude de possibilités de comprendre la Torah, et ça donne certaines fois même plusieurs façons de la vivre. D'accord? C'est pour ça que même dans la halakha, sur certains points, il y a une multitude de possibilités qui sont présentées. Donc tout ça, Moshe Rabbeinu l'a reçu de façon, je dirais, compacte au Sinaï. Et puis les générations le déploient. C'est ça la fonction. Et donc le rayonnement du visage de Moshe, c'est la Torah orale dont il était dépositaire. C'est ça. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on chante. Oh, ouais, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Un instant.
Alors, là, on parle des différences.
Voilà. Alors, à toi, Jean.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Je pense que c'est bon. יושב בצר עליון יוצאת שדאי סיונן אומר לאדוני מרסי ומצודוסי אלוהי יפר בו כי הוא יצירכו מפח ירגוש מדבר אבוס ואברוס יוסך לוח ושחס כמחוס יחסה צינור ושוחרו עניתו ואוסירו מפחד לא אלו מחצי ופיומו מדבר בו אוכל יהלוך וכתב יושות צהרויים יפון מציתכו אלף ורבובו ממיניכו אליכו לא יגוש רק בעיניכו סבית ושילמת חשויים תראה כי עתו אדוני מרסי עליון שמתו מעוניכו לא שאונה אליך רואו ונגע לו יקרב ואוהו לך כי מלוכו יצא ולוך לשמור לך בכל דרוכך על כפי מסעון חו בן תגרוב ובן רגלך על שחל ופסן תדרוך תרמוס כפיר בשני כדי חושק ואפלתיו אסגביו כי יודע שבי יקחויני ועיניו אמא אונוכי בצורו החלציו וחבביו אורך ימים אז ביהיו והריו בישוס
שיר למעלות אסעיני אליהרים מהאם יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני תהילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה ויריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני ישמור תיתיך ואיך מעתה ועד עולם.
שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמע יא אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני כפתה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עם עובדות והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו.
Merci beaucoup. Chodesh Tov à tout le monde.
Chodesh Tov.
Ta fille est encore là, Déborah ?
Non, elle est partie aujourd'hui.
Elle est repartie aujourd'hui. Et quand est-ce que toi, tu voyages ?
Lundi prochain.
Lundi, Pesha Tova. Très bien. Mais écoute, je te souhaite un bon voyage, un bon séjour. Voilà. Tout le monde va bien ? Sinon. Très bien. Et bien, continuez.
Et vous,
ça va, Rachel ? Baruch Hashem, oui, ça va. Merci. Voilà.
La fin de la phrase du Rav Kronstein, quand il a dit la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je n'ai pas entendu la suite.
La vérité, je n'ai pas entendu. Je suppose qu'il a dit qu'on parlerait de Pessah.
Ah,
non ? Personne n'a entendu ?
Il avait annoncé après.
Et j'imagine que c'est ça qu'il a dit.
Ouais, il avait annoncé dimanche dernier qu'il remplaçait les cours de dimanche par des cours sur la Géoula et Pessah.
Ouais.
C'est ça, voilà, c'est ça.
C'est ce qu'il avait dit dimanche, oui.
Voilà, donc c'est la confirmation.
Confirmation, ok. Merci.
Merci.
Okay.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.